BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Thomas Asportas, Good Evening Business.
Allez, il sera 18h dans deux minutes. Bonsoir et soyez les bienvenus dans Good Evening Business, dans l'actualité ce soir. Eh bien, on rentre dans le money time, on va dire ça comme ça. C'est le moment de vérité pour Matignon. Emmanuel Macron consulte toutes les forces politiques, tous les partis politiques, tous azimuts depuis ce matin. Il semble avoir admis, d'après les représentants du nouveau Front Populaire, qu'un changement de politique était nécessaire. Et visiblement, le nom du Premier ministre devrait être connu très prochainement. On analyse la situation dans un instant avec nos invités. Et puis l'autre temps fort de la journée, bien sûr. Eh ben, c'était l'intervention, c'était il y a quelques minutes, de Jérôme Powell à Jackson Hole. Et là, pour le coup, pas de suspense, le président de la Fed a été très clair. Le moment de la baisse des taux est venu, a-t-il dit cet après-midi. Maintenant, il s'agit de comprendre très concrètement ce que ça veut dire. Quel calendrier, quel niveau de baisse de taux d'ici à la fin de l'année? Là aussi, on décrypte et on analyse avec nos experts dans Good Evening. On est en direct jusqu'à 19h, c'est parti.
Good Evening Business, le journal.
Et on commence donc, évidemment, avec cette journée de consultation à l'Élysée pour nommer le prochain Premier ministre. Emmanuel Macron a d'abord reçu le nouveau Front Populaire, c'était ce matin, et pour ses représentants, le président a admis la nécessité de changer de politique, puis il a reçu, c'était à la mi-journée et dans l'après-midi, le Bloc Central, puis les Républicains. Sur place à l'Élysée, on fait le point avec Alexis Cubillier.
Oui, les trois représentants de la droite républicaine, Annie Genevard qui assure l'intérim à la direction du parti, Laurent Wauquiez qui a pris la tête du groupe des députés LR à l'Assemblée, et puis Bruno Retailleau, le patron des sénateurs de droite. Une prise de parole assez courte dans laquelle, eh bien, Laurent Wauquiez est venu rappeler la position de sa famille politique, une position qui a été exprimée très vite après le second tour des élections législatives. Il y a cette proposition de pacte législatif qui a été reformulée, mais il n'y aura pas de participation de LR à une coalition gouvernementale. Écoutez Laurent Wauquiez.
Nous ne participerons à aucune coalition gouvernementale. Parce que nous ne croyons pas à ce système de coalition gouvernementale où on met ensemble des gens qui ne pensent pas la même chose et qui aboutissent à l'impasse dans laquelle on est aujourd'hui. Et la deuxième chose que nous avons rappelée collectivement avec la plus grande clarté, c'est que nous ferons barrage à la France insoumise. Parce que, et ça n'est pas suffisamment dit dans notre pays, ils sont dangereux pour la République. Les valeurs de la France insoumise sont en rupture avec les valeurs fondatrices de la République française, et notamment la laïcité. Plusieurs de leurs élus tiennent ouvertement des propos antisémites, et leur approche est une approche extrémiste.
On est dans une situation de blocage, on ne jouera pas la politique du pire, pas d'opposition systématique, a dit également Laurent Wauquiez, en cohérence donc avec cette proposition de pacte législatif dont je vous parlais il y a quelques instants. Annie Genevard, de son côté, assurait qu'il n'y aurait pas de proposition de Premier ministre à attendre de la droite républicaine, sans répondre à cette question importante. Et si finalement c'est un membre de la droite gaulliste qui a été nommé à Matignon, vous savez que l'hypothèse d'une nomination de Xavier Bertrand, le président de la région de France, fait figure, eh bien, d'hypothèse crédible. Elle a été beaucoup agitée dans les médias tout au long de l'été. Un Premier ministre qui ne serait pas issu du Bloc central, c'est la proposition qu'avait faite quelques heures plus tôt Gabriel Attal, le patron du groupe des députés macronistes à l'Assemblée, lors d'un échange avec le président de la République et avec le Bloc central. C'est un échange qui a duré 2 heures environ, entre 13h et 15h tout à l'heure.
Alexis Cubillier sur place à l'Élysée. Les consultations se poursuivent avec les représentants du groupe Liotte et des radicaux de gauche ce soir. Et puis lundi, ce sera au tour du Rassemblement National et d'Éric Ciotti d'être reçu à l'Élysée. L'autre temps fort de la journée, je vous le disais, c'était bien sûr l'intervention de Jérôme Powell à Jackson Hole. Le président de la Fed était très attendu sur des indications de baisse de taux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas déçu avec un message on ne peut plus clair. On l'écoute.
L'économie continue de croître avec des salaires plus importants, une inflation moins importante et un marché du travail changeant. Le risque à la hausse pour l'inflation a diminué et le risque sur le marché du travail s'est accru, comme nous l'avons montré récemment. Nous sommes sur le point d'atteindre les objectifs de notre mandat. Le moment est venu pour notre politique d'ajuster une nouvelle direction à suivre. La durée et le niveau de réduction des taux dépendra des données à venir et de l'équilibre des risques. Nous ferons tout ce qu'il faut pour soutenir le marché du travail, comme nous l'avons fait pour les prix, avec une politique appropriée, nous pouvons avoir une faible inflation et un marché du travail dynamique.
Voilà Jérôme Powell qui ouvre la porte à des baisses de taux. En Ukraine à présent, Narendra Modi est arrivé à Kiev aujourd'hui pour témoigner son soutien au peuple ukrainien. Un exercice délicat pour le Premier ministre indien qui entretient des relations fortes avec la Russie. Modi appelle à un règlement pacifique du conflit. On l'écoute.
Si nous sommes restés avec une grande conviction à l'écart de la guerre, cela ne veut pas dire que nous étions indifférents. Nous n'avons pas été neutres depuis le premier jour. Nous avons pris parti et nous sommes résolument favorables à la paix.
Dans l'actualité des entreprises à présent, c'est une véritable révolution qui se passe chez Apple. Apple qui, pour se conformer à la réglementation européenne, va permettre aux utilisateurs de ses smartphones et de ses tablettes de supprimer purement et simplement les applications Apple installées par défaut sur leur appareil. On parle de l'App Store, on parle des messages ou encore de la caméra. Une vraie révolution. Léa Rojo.
Apple était dans le viseur de la Commission européenne depuis quelque temps. La firme va maintenant devoir se conformer aux nouvelles règles de concurrence de l'Union européenne. Et en faisant cela, Apple évite une amende allant jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires mondial, soit plus de 30 milliards d'euros sur la base des ventes de l'an dernier. Pour rappel, la Commission européenne a ouvert une enquête le 25 mars car selon Bruxelles, les règles de l'App Store enfreignent le DMA et donc empêchent les développeurs d'applications d'orienter les utilisateurs vers d'autres canaux. C'est donc une nouvelle ère qui s'annonce car Apple a longtemps défendu son écosystème fermé au nom de la sécurité. Mais désormais, il sera possible de contourner Safari et l'App Store. Par exemple, sur les prochains modèles, une nouvelle section sera ajoutée au réglage des iPhones pour télécharger des applications sur la plateforme de votre choix. Ces changements sont donc une nouvelle victoire pour le DMA car ce règlement va permettre de veiller à l'émergence et à la croissance des startups en Europe.
Léa Arojo, dans le secteur agroalimentaire, Nestlé hier soir a surpris en annonçant le départ de son directeur général, remplacé par un Français qui plus est. Le directeur général qui fait les frais de résultats en perte de vitesse depuis la crise inflationniste, mais cette annonce, donc surprise, pourrait avoir de belles conséquences, de belles répercussions sur l'entreprise. C'est en tout cas l'analyse que fait Bassel Chougari, gérant action chez Montpensier Finance.
Les marchés ne s'attendaient pas à un changement de CEO en plein été. Et en fait, ça a quand même un peu rassuré puisque le nouveau management est venu et a parlé aujourd'hui. Et c'est une histoire qui est assez intéressante parce que si on regarde Nestlé, le cours de bourse baisse depuis bientôt 2 ans. Et on a une entreprise qui est, depuis le début de l'année, qui va sous-performer ses concurrents européens comme Unilever et Danone. Et Unilever et Danone ont une chose en commun, c'est qu'il y a eu des changements de management les 3 dernières années. Il y a eu une réinvention du produit et c'est des entreprises qui ont réussi à retrouver de la croissance des volumes. Si on prend Nestlé, les 2 dernières années, la croissance des volumes était de 0. Tout se faisait par les prix. Donc pendant les périodes d'inflation, Nestlé a eu cette capacité grâce à ses marques augmenter ses prix, mais en fait il y a un moment où le consommateur n'arrivait plus à suivre et se retrouvait à aller acheter des marques qui étaient de plus bon marché et qui donc impactaient la croissance des volumes. Et il a fallu, on va pas dire un électrochoc, mais il faut un changement chez Nestlé.
18h06, dans l'automobile à présent, on a assisté à une petite révolution en Europe sur le marché de l'électrique. Bonsoir Alexandra Pagé. Petite révolution, puisqu'au mois de juillet, BMW a vendu pour la première fois plus de voitures électriques que Tesla.
Effectivement, et c'est une première. Le constructeur allemand vient de coiffer la firme d'Elon Musk au poteau sur le marché européen. Et ça s'est joué à 308 véhicules près exactement. BMW a vendu 14 869 véhicules électriques. Tesla, 14 561. Alors, ça ne préjuge pas du classement à l'issue de l'année. Au premier semestre, le constructeur américain a tenu sa pole position avec 11,4% de part de marché européen, mais c'est 1,7% de moins qu'au premier semestre de 2023. Et surtout, c'est bien la marque de la montée en puissance de la firme bavaroise grâce à l'introduction de nouveaux modèles comme le iX1 et le i4. Tandis que le problème de Tesla, lui, demeure, son avantage jusqu'à présent incontesté repose sur 2 références seulement, les modèles Y et modèle 3. Or, cette dernière a marqué le pas en juillet en raison, vous le savez, de la répercussion discussions sur ces tarifs du rehaussement des droits de douane sur les véhicules produits en Chine. Or, la Model 3 est fabriquée à Shanghai. Tesla parvient à tenir la corde en bradant la Model Y, désormais produite, elle, à Berlin, autour de 30 000 euros, par exemple, en Espagne.
Bon, ça ne s'est pas joué à grand-chose, mais le symbole est là. BMW passe devant Tesla pour la première fois en Europe. On va suivre évidemment très près ce qui va se passer dans les prochains mois. Merci beaucoup, Alexandra Paget. 18h08 pour finir ce journal. On parle de consommation. Alors, ça peut paraître très contradictoire, mais la question se pose visiblement. Et si TikTok nous aidait à moins consommer ? Le mouvement Under Consumption Core est en tout cas devenu une véritable tendance sur le réseau social. Et ce mouvement, eh bien, il prend le recyclage, la réparation, la sobriété, bref, consommer moins. On fait le point avec Julien Thibault.
Si beaucoup de jeunes consomment encore de manière compulsive, les vidéos qui prônent un retour vers des savoir-faire simples ont la cote sur les réseaux sociaux, des espaces habituellement connus pour pousser à la surconsommation. Pour cette influenceuse, le succès de ce mouvement réside dans son accessibilité.
Lorsque j'encourage les gens à fouiller dans leur garde-robe, il y a toujours une pile d'articles à réparer ou à modifier. C'est comme faire du shopping dans sa propre garde-robe. Au lieu d'acheter quelque chose de nouveau, vous réinvestissez pour vous-même, vous réinvestissez dans une pièce que vous avez déjà.
Des vieux meubles, des vêtements rapiécés, des gourdes cabossées, les comptes de sous-consommateurs les plus suivis ont des centaines de milliers de followers. Si la crise du Covid a assurément joué un rôle, pour cette experte en marketing, l'inflation a contribué à l'essor du mouvement.
La sous-consommation est une réponse naturelle que la génération Z et les millennials associent à une période d'instabilité et d'incertitude économique et géopolitique.
Un mouvement qui prend de l'ampleur. Cet été, les recherches Google liées à la sous-consommation ont presque doublé aux États-Unis.
Julien Thibault, 18h09, on va sur les marchés. Les marchés, la clôture à Paris pour clore la semaine et après l'intervention de Jérôme Powell. Bonsoir Étienne Brack.
Bonsoir Thomas. Bah, le verdict, il est positif. Vous avez entendu Jérôme Powell il y a quelques minutes. Enfin, il va droit au but. Hein. Le temps est venu de baisser les taux. Alors vous imaginez bien que les marchés sont contents. C'est tout ce qu'ils voulaient entendre. La trajectoire de baisse de taux est confirmée. Vous avez un CAC 40 qui se rapproche gentiment des 7600 points. 7577 points, c'est une hausse de 0,7% ce soir à la clôture. C'est simple, le CAC 40 est sur des plus hauts d'un mois. Il a totalement gommé la baisse de début août où il y avait un petit stress, où il était revenu à 7050 points. Donc quand même un gain de 500 points en l'espace de 15 jours, 3 semaines. Du côté de Wall Street, c'est du vert également, avec trois indices américains qui gagnent entre 0,6 voire même 1% pour l'indice Nasdaq, parce que forcément, s'il y a des baisses de taux à venir, l'obligataire, donc la dette américaine, bah, vous avez un rendement qui baisse. Donc ça, c'est bon pour Wall Street. Hein. Donc forcément, vous avez les valeurs de la tech qui en profitent. Nvidia prend un peu plus de 3%, repasse devant Microsoft. Donc Nvidia, deuxième capitalisation mondiale, hein, désormais devant Microsoft, troisième, et Apple qui est toujours premier. Du côté des valeurs, assez intéressant de voir que Workday, qui est spécialisé dans les logiciels de ressources humaines, gagne plus de 10% à Wall Street. Programme de rachat d'actions de plus d'$1 milliard. Et puis le secteur automobile également, qui est bien orienté en Europe. Il y a un instant, Alexandra nous parlait de BMW. La valeur gagne plus de 1% du côté de Wall Street, quand Nestlé, par miracle, arrive à clôturer stable. Ça a quand même inquiété ce matin à l'ouverture à Zurich, hein, cette changement de direction. Le titre a perdu 4%, hein, ce qui est quand même pas anodin. Non. Avant finalement de clôturer stable à la clôture, grâce à Jerome Powell qui a sauvé Nestlé. Le CAC 40, donc, qui gagne 0,7% ce soir à la clôture, à la porte des 7600 points, 7577 points.
Eh bien, il sait tout faire, Jérôme Powell. Merci beaucoup, Étienne Brack. Et puis, on vous retrouve lundi matin dans la matinale, puisque vous êtes dans la team de Good Morning pour analyser les marchés. Merci beaucoup, Étienne. 18h11, on marque une pause et on se retrouve avec Benjamin Morel pour décrypter la situation politique. On a besoin de ces éclairages très précieux pour y voir plus clair. À tout de suite.
BFM Business présente Actu, experts, débats et interviews des grands acteurs de l'économie. Thomas Asportas, Good Evening Business.
Allez, bientôt 18h15 sur BFM Business. Les consultations des partis politiques se poursuivent. Le chef de l'État consulte tout azimut depuis ce matin pour tenter de nommer un prochain Premier ministre à Matignon. Est-ce qu'on commence à y voir un petit peu plus clair sur ses intentions ? Bonsoir Benjamin Morel.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. On a besoin de vos éclairages, toujours très précieux. Vous êtes maître de conférence en droit public à Paris 2. Quelle est votre analyse de ces consultations menées depuis ce matin ? Est-ce que pour vous, on a avancé ?
Modérément. C'est même un euphémisme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas en effet grand-chose qui a bougé. On constate que le mouvement populaire n'a pas de majorité qui permettrait une nomination de Lucie Castel à Matignon. C'est quelque chose qui semble avoir été répété à la fois aux leaders de l'ancienne majorité et puis par l'Élysée à la presse. De l'autre côté, la majorité, l'ancienne majorité présidentielle, quand bien même on y rajouterait LR, sachant que les LR sont sur une position qui n'est pas une position d'alliance vis-à-vis de l'ancienne majorité, ça fait toujours 210 députés et donc c'est insuffisant. Donc tout le monde dit qu'il a une volonté de s'ouvrir et de se tendre la main, mais en même temps les lignes rouges sont aujourd'hui relativement indépassables. Le centre et la droite disant qu'ils ne veulent pas voir un insoumis, voire pour certains un écolo au gouvernement. Quant au Nouveau Front Populaire, il est tenu par son programme et par son alliance avec l'AFI, qui induit par définition un blocage qui était celui qui était déjà présent ce matin et qui d'ailleurs était déjà présent dès le 7 juillet.
Ce qui est peut-être nouveau, c'est les mots employés par le chef de l'État, en tout cas d'après les participants, et notamment le Nouveau Front Populaire qui est ressorti, c'est eux qui ont été reçus les premiers, et ils en sont ressortis tout sourire, visiblement très satisfaits, puisqu'Emmanuel Macron leur aurait dit qu'il a admis, entre guillemets, sa défaite, en tout cas le fait que la politique, sa politique en tout cas à lui, devra changer, doit changer. Donc ça, c'est quelque part une main tendue.
C'est quelque part une entendue, mais qui ne règle pas la situation. Si vous voulez, alors Emmanuel Macron, évidemment, coutumier comme ça de ce type d'effet de communication en disant que rien ne sera plus jamais comme avant. Mais comme d'ailleurs ses prédécesseurs, c'est une vieille loi de la politique, mais ça ne règle pas la question de la majorité. C'est-à-dire que quand bien même Emmanuel Macron voudrait modifier le logiciel politique qui était le sien, déjà il ne tient plus son groupe politique. Un groupe politique aujourd'hui, il est tenu par Gabriel Attal, dont on connaît les bonnes relations actuelles avec Emmanuel Macron.
Ouais, c'est ironique.
C'est un euphémisme. Exactement, c'était l'ironie. Et de l'autre côté, quand bien même. C'est-à-dire que l'électorat macroniste est très anti-insoumis. Vous ne ferez pas faire une alliance pour des raisons claires des macronistes aux insoumis. Quant aux insoumis, ils n'ont aucune envie non plus de faire alliance avec les macronistes. Donc, de toute façon, ces lignes rouges sont solides. C'est-à-dire qu'il y a une étanchéité entre ces deux blocs. Donc, soit vous avez un accord qui va des Verts au LR, qui n'ont pas un atome crochu idéologique commun entre eux, et qui, si plus est, impliquerait une explosion du MSP, qui est venu aujourd'hui relativement uni, et avec le risque pour les députés socialistes et écologistes qui rentreraient dans cette logique-là, de se retrouver face à un candidat insoumis en cas de dissolution, qui ferait qu'ils créent tout sur des sièges éjectables. Je rappelle que la gauche fait moins de voix en 2022 qu'en 2017. Mais elle a quatre fois plus de députés. Pourquoi? Parce qu'elle part unie. Et donc aujourd'hui, si vous brisez le MSP, si vous avez une dissolution de cette alliance, et prendre le risque pour les socialistes et les écologistes qui n'ont pas les meilleures circonscriptions à gauche, d'être battus en cas de dissolution. Mmh. Donc dans cette situation-là, les forces d'inertie, quoi qu'en dise Emmanuel Macron, elles demeurent et elles risquent de perdurer assez longtemps.
Donc pour vous, le bloc de gauche, il est infissurable. Emmanuel Macron ne doit pas compter là-dessus, en fait. Cette fameuse coalition du centre dont on nous parle depuis le deuxième tour, elle n'aura pas lieu.
Que fait Jean-Luc Mélenchon le soir du 7 juillet? Il dit « on a gagné ». On a gagné, autrement dit, on va arriver au pouvoir. Et si nous n'arrivons pas au pouvoir, nous, Nouveau Front Populaire, eh bien c'est parce que certains auront trahi, auront été chercher ailleurs des pâturages plus verts, notamment socialistes et écologistes. Regardez bien si vous ne voulez pas être de sociotraître. Et donc, ce faisant, il prend à témoin l'électorat de gauche du fait que si jamais il devait y avoir une alliance de la carpe et du latin, forcément avec les macronistes, mais également, encore une fois, avec la droite, Laurent Wauquiez serait arithmétiquement nécessaire. Eh bien, ça veut dire que cette gauche-là n'est pas la vraie gauche et que Sandrine Rousseau ferait alliance avec François-Xavier Bellamy, Fabien Roussel ferait alliance avec Éric Woerth pour concocter un budget. Donc, ça serait politiquement très compliqué. Et deuxième élément, c'est celui qu'on évoquait tout à l'heure. Pour des raisons électorales, le mode de scrutin majoritaire à deux tours, c'est qu'ils savent très bien que s'ils partaient séparés, ils seraient profondément mis en difficulté. Mmh. Cette situation-là, elle induit par définition des blocages qui, au-delà même des bisbilles idéologiques qui peuvent exister au sein de la gauche et qui sont réelles, font qu'il est très difficile d'envisager une vraie fissure du NSP.
Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est très intéressant. Vous dites que ce qu'a dit en gros Emmanuel Macron au parti de gauche, c'est de la com. La com dont il est coutumier. Vous dites que quand il dit qu'il prend acte du fait qu'il faut changer de politique dans le pays, c'est de la com. Il a eu une autre expression envers eux, c'est en tout cas ce qu'ont rapporté les représentants du Nouveau Front Populaire. La stabilité ne veut pas dire la continuité de la politique que j'ai menée. Vous y croyez pas, en fait. Ça, c'est juste des formules pour essayer de les endormir.
Il faut bien comprendre quelle est la position d'Emmanuel Macron. Tout le monde, depuis le 7 juillet, dit le problème, le blocage, il est à l'Élysée. L'Élysée ne veut pas nommer quelqu'un, l'Élysée procrastine, l'Élysée a décidé de conserver le pouvoir, et donc le problème aujourd'hui est Emmanuel Macron. Le problème, c'est peut-être Emmanuel Macron, mais c'est surtout qu'il n'y a encore une fois pas de coalition possible. Ah. Et que si Emmanuel Macron nommait Lucie Castet, Xavier Bertrand, qui vous voulez, ça tomberait en 48 heures. Et donc, l'objectif d'Emmanuel Macron, c'est de montrer dans ses rencontres qu'il n'est pas le blocage. Qu'il n'est pas celui qui fait que la situation n'avance pas, que le blocage, il est ailleurs, que le blocage, il est dans cette absence de coalition. Si vous commencez à dire, écoutez, moi, je vais bien vous prendre, hein, mais vous allez appliquer mon programme, là, vos opposants politiques auront beau jeu de dire, non, mais en fait, le blocage, il est ici, vous avez un président qui n'a pas compris qu'il avait perdu. Donc, on est dans une bataille de communication sur qui portera le chapeau d'un relatif probable échec de la constitution d'une coalition.
D'accord. Donc, pour vous, on se dirige vers, je reprends vos mots, probable échec. Vous ne voyez pas comment on peut sortir par le haut de la situation. C'est arithmétiquement et politiquement impossible.
C'est arithmétiquement très compliqué. Vous avez trois scénarios. Soit vous avez ce scénario alliance macroniste NFP, très improbable, hein, ça impliquerait de franchir la ligne entre macroniste et insoumis, les insoumis seront compris. Soit vous allez de LV à LR, ça apparaît suicidaire pour les partis qui rentreraient dans cette logique-là et idéologiquement pas cohérent. Soit vous avez un gouvernement centriste qui tient grâce aux bonnes grâces de Marine Le Pen, parce que Marine Le Pen ne voterait pas les motions de censure. C'est peut-être à ce stade-là le scénario d'ailleurs le moins probable, avec un gouvernement qui tout de même serait assez malaisé d'expliquer que s'il tient, c'est parce que Marine Le Pen ne vote pas les motions de censure. Alors certains disent, oui, mais des motions de censure, ça vient forcément de quelque part, et Marine Le Pen ne les voterait pas. Je rappelle que le RN votait des motions de censure venant de la gauche lors de la dernière législature.
Bien sûr.
Donc elle a aucune raison de dire aujourd'hui, attention, ça vient de la gauche, donc je ne la voterai pas. Si elle veut la voter, elle la votera. Donc un gouvernement Bertrand, Barnier, Borloo, qui vous voulez, ça tient par la bonne grâce de Marine Le Pen à ce stade-là. Donc on peut avoir des expériences, on peut avoir des tentatives, ça peut tenir quelques jours, quelques semaines. À terme, on peut aller vers un gouvernement technique, parce que je rappelle qu'il y a un compte en rebours qui s'appelle celui du budget.
Tout à fait.
Et que le budget doit être déposé le premier mardi d'octobre sur le bureau de l'Assemblée.
Le 1er octobre.
Le 31 décembre. Et ça, c'est assez évidemment urgent, parce que un budget ne se prépare pas en un week-end. C'est un gros travail, un gros bébé à déposer au Parlement. Et donc, un gouvernement qui, aujourd'hui, prendrait les rênes du budget aurait déjà fort à faire. C'est pas un hasard si on fait des élections d'habitude au printemps et que, justement, on veut laisser et l'été et le début de l'automne au gouvernement préparer son budget.
Pour travailler. On n'a pas parlé, enfin, ou peu, en tout cas, des LR jusqu'à présent. C'est eux qui ont été reçus après le bloc central. Est-ce qu'ils ont la clé de la question? En tout cas, ils ont, enfin, la clé du problème. Ils ont, en tout cas, Laurent Wauquiez a réaffirmé leur posture. Hein. Ça n'a pas varié d'un iota. On ne fera aucune coalition. S'il ne bouge pas, ça veut dire qu'il est en position de force?
Oui, mais chacun est en position de force parce que votre coalition, admettons, votre coalition des centres, ce qui était espéré par Emmanuel Macron. Elle compte à minima 7 groupes politiques. Si l'un de ces 7 groupes politiques se désolidarise, dont LR, votre coalition n'existe plus. Donc les LR sont en position de force parce que sans eux, en effet, il n'y a pas de coalition des centres possible, minoritaire, et il n'y a pas de coalition qui tienne quoi qu'il arrive. Mais LR est peut-être nécessaire, mais LR n'est pas suffisant, encore une fois. C'est-à-dire que si vous prenez LR, les centristes Macron plus LR, ça fait 210. C'est pas non plus suffisant. Donc chacun va tenter de faire monter les enchères, mais on parle beaucoup des grandes coalitions à l'étranger. Et c'est pas une affaire de culture politique, ça. Ça veut rien dire, ces affaires de culture politique. Mais les coalitions politiques à l'étranger, elles comportent en règle générale 2-3 parties. Une grande coalition à l'allemande, c'est CDU-CSU plus SPD. C'est 2 parties. En Italie, vous avez parfois 3-4 parties, mais pas au-delà. Là, on parle de 7 groupes politiques. Ouais. Donc évidemment, c'est extrêmement instable. Sachant que s'il y en a un des 7 qui décide de voter la motion de censure, il n'y a plus de gouvernement.
Oui, intéressant ce que vous dites. Donc les LR restent inflexibles. Est-ce que c'est... Ils se distinguent dans le sens où tous les autres disent être prêts à faire des compromis. Le Nouveau Front Populaire, le Bloc Central, Gabriel Attal qui dit « je suis pour qu'on nomme quelqu'un de la droite républicaine ». La droite, enfin les LR, sont les seuls à ne pas faire de bouger. Est-ce que c'est une faute? Enfin, est-ce qu'eux aussi devraient mettre un peu d'eau dans leur vin?
Sur le principe qu'ils y seraient probablement contraints. Mais il faut bien voir que lorsque vous êtes le membre d'une coalition, Et surtout quand vous êtes un membre minoritaire d'une coalition, vous n'avez que des coups à prendre. C'est-à-dire que si jamais vous êtes LR et que demain vous discutez avec les partisans d'Emmanuel Macron et que vous rentrez dans une logique de coalition, Marine Le Pen va vous dire, mais en fait, vous assumez donc le bilan d'Emmanuel Macron et la politique qui est menée durant ce quinquennat et peut-être pendant les précédents, c'est également la vôtre. Donc ce faisant, je suis la seule alternance, la seule alternative. Et ça, une partie de l'électorat LR pourrait l'entendre et se décrocher. De même d'ailleurs pour les socialistes et les écologistes. Hein, c'est-à-dire que rentrer dans une coalition avec des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord, c'est assumer également le bilan du gouvernement qui sera celui qui sera monté. Et ça, évidemment, ceux qui resteront dans l'opposition, eh ben, en profiteront. Regardez ce qui s'est passé en Italie. La dernière grande coalition derrière un gouvernement technique, il y a un seul parti qui n'a pas participé, c'est Frères d'Italie. Le parti de Giorgia Meloni.
Tout à fait.
Et on connaît la suite.
Et on connaît la suite. C'est elle qui a pris largement le pouvoir. Les consultations vont se poursuivre lundi avec le Rassemblement National et Éric Ciotti. Le fait qu'il soit reçu à part, seul, est-ce que c'est un... Je cherche l'expression. Enfin, de fait, ça va les distinguer. Aujourd'hui, tout le monde a défilé et eux vont être mis en lumière par le fait qu'ils soient reçus seuls.
Alors, ça va les distinguer.
Est-ce qu'il y a un traitement de faveur ? Voilà, est-ce qu'il y a un traitement de faveur ? C'est le mot que je cherchais.
Peut-être, en tout cas, de toute façon, visiblement, il y avait une question de calendrier et les leaders du RN ne voulaient pas revenir plus tôt. Mais au-delà de ça, ça donne également le sentiment qu'ils peuvent avoir les clés, parce que comme on l'évoquait tout à l'heure, en fait, vous avez deux blocs qui sont étanches l'un avec l'autre, le bloc NSP et le bloc centriste LR qui n'existe pas, mais admettons qu'il existe, ce bloc centriste LR. Ils ne peuvent pas voter les uns pour les autres, ni refuser les motions de censure à ce stade-là. L'arbitre des élégances, si jamais quelque chose devait tenir politiquement, c'est le RN. De quoi a peur l'Élysée en nommant, par exemple, Lucie Castet? C'est pas que Lucie Castet tombe en 48 heures, c'est que Lucie Castet tienne parce que le RN mettrait du temps à voter une motion de censure, permettant de faire passer une réforme des retraites, des modifications du SMIC par décret, etc. Si un gouvernement Bertrand, Borloo, Barnier tenait, ou Cazeneuve, ben c'est probablement parce que le RN ne voterait pas les motions de censure. Donc on est dans une situation assez paradoxale où le seul bloc politique qui ne peut pas participer à une coalition parce que personne ne veut pas mettre coalition avec lui, est peut-être celui qui, s'abstenant sur les motions de censure, aura à la fois la possibilité de faire tenir un gouvernement, mais également aura le doigt sur la gâchette permettant de faire tomber le gouvernement quand il le souhaitera. Ce qui sera une position très inconfortable, mais ce qui pour quelques mois peut arranger, notamment pour faire passer le budget, peut arranger la vie du président de la République.
Ouais, très intéressant. Il nous reste deux minutes, Benjamin Morel. Le Rassemblement National disait cette semaine, je recevais Edwige Diaz, la numéro 2 du parti, dit que pour elle, la situation est insoluble et qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de refaire une dissolution dans un peu moins d'un an maintenant, puisqu'il faut attendre 12 mois entre chaque dissolution. Vous êtes d'accord avec elle? Il n'y a pas de solution à la situation?
Il n'y a pas de solution, mais je ne suis pas sûr que la dissolution soit une nouvelle solution. De quoi tombe la 4e République? La 4e République, en fait, c'est un régime parlementaire classique, post-seconde guerre mondiale. La Constitution n'est pas si exceptionnelle que ça, il n'est pas vraiment le problème. Le problème sur la 4e République, c'est que vous avez 30% de communistes. On ne peut pas s'allier avec eux pour cause de guerre froide. Vous avez 15% de gaullistes, on ne peut pas s'allier avec eux parce que De Gaulle ne veut pas. Et donc, vous gouvernez sur les deux tiers de votre assemblée. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous avez bon tiers de RN et vous avez un bon quart de l'AFI. À eux deux, ils composent environ 50% de votre assemblée et les groupes du centre ne veulent s'allier ni avec le RN ni avec l'AFI. Et donc, ce faisant, la seule coalition qu'on a envisagée tout à l'heure, elle va des Verts au LR, qui n'est pas cohérent, c'est l'alliance de la carpe et du lapin, comme ça l'était sous la 4e République. Vous faites une dissolution dans un an. A priori, le RN, qui restera dans l'opposition, a toutes les chances de monter. Si l'AFI ne baisse pas, et l'AFI est encore une fois le meilleur circonscription de gauche, vous pouvez vous retrouver avec un hémicycle encore plus ingouvernable, avec plus de RN, avec pas moins de l'AFI, auquel cas, si jamais demain, RN plus l'AFI qui ne gouverneront jamais ensemble, évidemment, et ça fait plus de 50%, vous faites quoi? Quelle coalition devient possible? Et bien à ce moment-là, on est réellement bloqué. Donc la dissolution, c'est ingouvernable en effet, il n'est pas sûr que la dissolution dans un an rende la situation plus gouvernable, et en disant ça, j'ai bien conscience de déprimer vos auditeurs, et j'en suis désolé.
Toute dernière question, Benjamin Morel. D'après les participants aux consultations, Emmanuel Macron annoncerait, dans la foulée des consultations, peut-être dès mardi, avant le début des Paralympiques, le nom du prochain ou de la prochaine Première ministre. Est-ce que vous y croyez? Et puis surtout, si c'est le cas, en fait, ça veut dire qu'Emmanuel Macron sait déjà qui va aller à Matignon.
Une possibilité qu'il annonce en effet. Après, ça ne réglera pas de problème. D'abord, parce qu'il faut composer votre gouvernement. Puis ensuite, comme on l'a dit, s'il n'y a pas de coalition qui tient derrière, ça ne sert à rien de se concentrer sur un nom. votre gouvernement tombera assez rapidement. Alors ça peut tenir jusqu'au début de la session ordinaire, hein. Le Parlement siège de plein droit jusqu'au 1er octobre, mon gouvernement fantôme peut tenir durant les Paralympiques, mais fondamentalement, ça ne serait pas forcément le gage de stabilité, d'autant qu'encore une fois, si vous avez un gouvernement sans majorité qui tient jusqu'au 1er octobre et qui est renversé le 1er octobre, comment est-ce que vous faites pour le budget ? Donc, voilà, cette solution-là, si elle devait être retenue, sans coalition derrière, elle est quand même très risquée et pas forcément une solution stabilité.
Bon, on l'a bien compris, on n'est pas beaucoup plus avancé. Merci, merci. Et vous n'avez pas à vous en excuser, vous y êtes pour rien. Merci, merci beaucoup Benjamin Morel d'avoir répondu à nos questions en direct sur BFM Business.
Good evening business. Actu, experts, débat et interview des grands acteurs de l'économie.
18h35 sur BFM Business. Sa parole était très attendue, on l'attendait depuis le début de la semaine. Bah, c'est chose faite, Jérôme Powell vient de s'exprimer à Jackson Hole, la grand-messe de rentrée des banquiers centraux. On analyse son intervention avec Xavier Patrolin de Albatros Capital. Bonsoir Xavier.
Bonsoir Thomas.
Ravi de vous retrouver en cette rentrée et de bénéficier de vos éclairages, même si pour le coup, là, le patron de la Fed a été très clair. Le moment est venu. Le moment est venu pour la politique monétaire de s'ajuster. En clair, bah, les baisses de taux, c'est maintenant, pour paraphraser un ancien président.
Voilà, il donne le signal que tout le monde attendait de l'inflexion. Ce qui était important, c'est l'argumentaire. Au fond, il y a deux critères essentiels pour un banquier central américain, en tout cas, qui est l'inflation, le risque inflationniste, et le risque sur le marché du travail. Et on sent, pour employer un terme communément utilisé aux États-Unis, qu'il y a un pivotement, c'est-à-dire que le risque inflationniste, on va dire, est relativement contenu, même si dans son exposé, il a bien mentionné, il a fait un espèce de panégyrique de ce qui s'était passé depuis le Covid et des évolutions structurelles. Mais on sent bien qu'il y a une plus grande préoccupation sur le marché du travail, plus grande préoccupation d'ailleurs après la révision qu'a effectué le Bureau de statistiques américain, le BLS, qui est quand même une révision qui peut changer clairement la perception qu'on avait d'un marché du travail pénurique. Je rappelle ce qui s'est passé mercredi, donc avec cette révision. On a eu de mardi...
On nous a dit qu'il y a 800 000 en moins créés que prévu.
C'est-à-dire,
c'est pas une paille.
Entre mars 2023 et mars 2024, il y avait théoriquement, le BLS avait dénombré 2,9 millions de créations d'emplois. Et ils en ont retiré, avec cette révision, plus de 800 000. Ouais. Ça veut dire une diminution
colossale
de près de 30%.
Ouais.
Donc ça change quand même la perception d'un marché du travail qui était devenu pénurie. Et donc pour la Fédérale Réserve, c'est clairement un autre indicateur, un autre élément central qui prouve que le marché du travail est entré dans une... Il reste encore bon, hein, il y a des créations d'emplois, mais probablement moins tonique que ce qu'on prévoyait et que le ralentissement est peut-être plus spectaculaire, a commencé plus tôt que l'on...
Ouais.
Plutôt. Et on le découvre aujourd'hui. Et donc ça, évidemment, on ouvre la porte à cette inflexion, à cette première baisse de taux de la Fédérale Réserve en septembre. Oui.
Donc les choses sont assez claires. Aujourd'hui, le risque, enfin pendant longtemps, il a été autour des prix, l'inflation.
Voilà.
Maintenant, le risque, il est sur l'emploi.
Voilà, exactement.
Là-dessus, il n'y a plus vraiment de débat. On est tous d'accord.
Dans ce qu'il a dit, il y a toujours un petit risque sur l'inflation. Pourquoi il y a un petit risque sur l'inflation ? Parce que la composante service reste quand même soutenue. Donc l'accord, au fond, il y a deux indicateurs. Il y a l'inflation IPCH, telle qu'elle, qui est l'inflation agrégée, et puis il y a ce qu'on appelle la core inflation, c'est-à-dire quand on enlève les éléments volatiles, alimentation et l'énergie, et puis tabac. Donc là, on est repassé en dessous 3. C'est vraiment là-dessus que les banquiers centraux se déterminent, c'est-à-dire le noyau dur, la core inflation. Donc là-dessus, on a des bonnes indications et une bonne décélération.
Okay.
Donc effectivement, quand on regarde les taux courts américains sont entre 5,25 et 5,50. Donc ça veut dire que l'écart entre les taux courts et le niveau d'inflation est de plus de 200 points
de
points de base. Et donc, il y a clairement une porte ouverte pour commencer à enclencher cette baisse des taux. Par contre, il n'a pas donné d'indication sur le rythme de baisse des taux. Mais...
Ni même sur le calendrier. Bon, on imagine qu'en septembre
il va enclencher. Voilà, il a plutôt validé, parce que souvenons-nous qu'il avait dit précédemment, en juillet, que la baisse des taux était clairement sur la table pour la réunion de septembre. Quand on voit cette déclaration plus le contenu des fameuses minutes de la Fédérale Réserve, évidemment, il y avait une majorité déjà à l'époque, en juillet, pour proposer une baisse des taux, justement sur l'argument de l'emploi. Tous les éléments qu'on a eus depuis l'heure sur l'emploi sont favorables. Les éléments
on a peut-être perdu 2-3 mois, alors. On aurait peut-être pu commencer un peu à baisser les taux à la dernière réunion.
Oui, Peut-être, mais après, c'est toujours la même chose chez un banquier central, c'est la balance des risques. Manifestement, ouais. Il préférait être, si ce n'est behind the curve, être légèrement en retard, parce qu'il a bien dit dans son exposé de Jackson Hole, les éléments structurels, et d'ailleurs, il a appelé par une espèce d'ironie du discours à la fin, il a appelé à la modestie. Et pour lui, et pour ses économistes, et aussi pour les observateurs, et probablement aussi un peu peut-être pour le BLS qui a manifestement quelques difficultés à suivre statistiquement le.
Il n'y a pas que le Trésor et Bercy qui ont du mal
voilà,
à faire des
estimations. Oui, non, mais c'est intéressant parce que ça veut dire qu'on est sur un cycle économique qui est assez atypique. On est dans une phase de normalisation, c'est-à-dire on sort du fond du Covid.
Ah oui.
Et le Covid a eu, et c'est ce qu'il dit.
Covid et Ukraine.
Covid et Ukraine a eu toute une série. D'ailleurs, c'est ce qu'il a dit dans sa conférence de presse de cet après-midi. Il a bien décrit les impacts en termes de pénurie de l'emploi, d'input sur toutes les variables énergétiques, évidemment, avec le conflit russo-ukrainien, des chaînes d'approvisionnement, notamment sur la partie industrielle, et que même s'il y avait une début de normalisation, on n'était pas complètement retourné dans la situation pré-Covid. Et souvent, dans son discours, depuis plusieurs trimestres, il mentionne la référence pré-Covid. Et au fond, la Fédérale Réserve a du mal à retrouver les éléments pré-Covid. On commence à les retrouver du point de vue du marché du travail, mais, et là il en parle, il parle de la labor force, c'est-à-dire de la force de travail, c'est-à-dire que les gens qui participent au marché du travail, et n'oublions jamais que le taux de participation n'est pas retourné à son niveau précédent.
Avant Covid.
C'est-à-dire on est en retrait. Ça veut dire qu'il y a 2,7 millions, 2,8 millions d'Américains qui ne sont pas retournés sur le marché du travail. Mmh. Donc par exemple, typiquement, quand Kamala Harris vante les créations d'emplois de l'administration
de Joe Biden,
il y a eu des créations d'emplois, mais à partir du point bas de février,
ouais,
mars,
mais pas assez, ouais.
Mars. Mais en définitive, il y a des Américains qui sont sortis du marché du travail. Ouais. Et donc ça veut dire que du point de vue de la middle class américaine, le marché du travail n'est pas aussi florissant qu'il n'y paraît. Et d'ailleurs, si on prend un point de comparaison, c'est-à-dire avant le Covid, on prend le décembre 2019. Mmh. Le taux de chômage en décembre 2019, il est de 3,5%. Mmh. Aujourd'hui, le taux de chômage américain, aujourd'hui, il est de 4,3. Donc il est déjà plus élevé.
Ouais, ouais.
Et si on fait à ISO taux de participation, c'est avec le même taux de participation qui prévalait en 2019, à ce moment-là, le taux de chômage implicite, c'est-à-dire en réintégrant les gens qui sont sortis du marché du travail, ressort à 4,9.
Ouais,
donc ça veut dire qu'en perception, c'est un calcul de coin de table d'une certaine façon, en perception pour la classe moyenne américaine, le taux de chômage il
a augmenté.
Il a remonté. Et souvent, vous entendrez sur les plateaux dire non, la performance de l'économie américaine est exceptionnelle, le marché du travail. Non, le marché du travail n'est pas si exceptionnel que ça, d'accord ? Parce qu'il y a des Américains qui sont sortis du marché du travail. Et ça, on a du mal à
le comprendre. On n'est pas pour autant loin de la récession,
parce que c'était
le risque.
Non.
On n'est pas là.
Exactement.
On est dans cet atterrissage en douceur. C'est les deux scénarios. Hein.
Voilà, c'est ça. Et il disait, la singularité du cycle actuel, c'est qu'on a bien une baisse du taux d'inflation sans une explosion du taux de chômage. Classiquement, quand on a une inflation qui passe de 5,5% à moins de 3%, en général, la fameuse courbe de l'affaire, on a une explosion, hein, en tout cas une forte croissance du taux de chômage. Pas du tout. Là, on est dans cette espèce de situation tout à fait inédite. Et donc, ce qui justifie d'y aller mollo.
Oui, c'est ça.
Hein,
mollo, ça veut dire qu'en septembre, on aura une baisse de 25 points de base.
Voilà. Alors, si on
comme a fait Christine Lagarde quand elle a encore fait cette baisse de taux.
Malgré tout, il y a des anticipations. Alors, si on prend les fameux taux futurs, les forwards sur les taux monétaires américains, on prend la situation hier et aujourd'hui. Hier, on avait 75% d'anticipation d'une baisse de taux de 25 points de base pour la prochaine réunion.
Ouais.
Là, on est passé à un peu plus de 65-66%. Ça veut dire que malgré tout,
un peu plus de gens pensent que ce sera 50 points.
Voilà, c'est ça. Alors, hier, ils pensaient que c'était à peu près 25. Aujourd'hui, on n'est pas loin de 30%. Mais vous voyez l'équilibre, hein, c'est 2/3 25 et un petit tiers 50. Le 50 me semble très excessif parce qu'en général, pour 50 points de base de baisse de taux, surtout au début d'un cycle. Ça, la Fed l'a déjà fait par le passé, mais elle le fait dans une situation de risque systémique. Elle le fait au moment du Covid, elle le fait au moment de Lehman Brothers, elle le fait quand il y a des problèmes sur les problèmes monétaires au début de la crise des subprimes en 2007. Donc, on n'est pas dans cette séquence-là.
D'accord. Est-ce qu'on peut, par contre, envisager d'autres baisses de taux d'ici à la fin de l'année ou pas ?
Oui, probablement.
Malgré les élections ?
Oui, c'est pas explicite parce qu'il a bien été data mining, c'est-à-dire
oui,
il a,
ah bah, ouais. Hein, il ça, a c'est bien, ce que font tous les grands banquiers centraux.
Voilà, il ne donne pas une séquence. Hein, il est pas.
Ah bah, il donne a même pas parlé du mois de septembre. Et,
voilà, mais encore en concentrant l'essentiel de son exposé sur le marché du travail, il donne quand même. Ouais, aux investisseurs, la variable au fond qu'il va suivre.
Ouais.
Hein, jusqu'à présent, les investisseurs concentraient sur la décomposition des différentes composantes de l'indice d'inflation. Là, on sent bien que le marché du travail.
Ouais, la focale a changé.
La focale commence à changer. Il y a ce fameux pivotement. Alors, c'est lent, c'est pas un virage à 180 degrés, mais quand même, ce pivotement s'enclenche. Donc, on peut probabiliser de manière assez sérieuse, au fond, qu'il y ait au moins quatre baisses de taux sur l'année glissante. C'est d'ailleurs que si on
à partir de septembre jusqu'à septembre prochain.
Voilà, c'est ça. Au moins quatre baisses de taux.
Mais jusqu'à décembre, jusqu'à la fin de l'année calendaire.
Ça reste jouable.
Peut-être. Je me demandais si avec l'élection du 5 novembre, si le fait politique allait pas geler la Fed.
Je pense que le marché du travail va être plus prépondérant. Et vous aurez noté aussi bien que pour Kamala Harris que pour Donald Trump, si tant est que Donald Trump continue sa campagne, la middle class, la classe moyenne.
Pourquoi dites-vous ?
Bon, je sais pas. Moi, je pense que Donald Trump est. Mais c'est une digression de.
Ah ouais, non, mais c'est pas anodin, ouais.
C'est une digression de. Je pense que Donald Trump est très mal engagé dans sa campagne. Et donc, au fond, si le débat de septembre se passe mal.
Enfin, il faudra un naufrage digne de Joe Biden. Bon.
Et justement, il n'est pas impossible que les Républicains tirent la sonnette d'alarme.
Ah ouais.
Voilà.
Il y a des anticipations là-dessus sur les marchés.
Non, bien sûr que non. Mais c'est mon.
Non, mais même faible. Il y a des signaux faibles de ça.
Oui, moi je commence. Bon, prenez. Alors là, on fait vraiment une digression complète. Mais prenez. Il a quand même Donald Trump a quand même convoqué d'une certaine façon un interview chez Fox hier, ce qui était la dernière journée
de
la convention. Ce qui pour moi témoigne du fait qu'il est en mode panique. C'est-à-dire, il aurait dû.
Il fait de la contre-programmation, quoi. Il veut pas.
Il aurait pu faire de la contre-programmation une fois la convention américaine terminée. Et donc, c'est bien qu'il a voulu désamorcer la convention américaine dès le matin du quatrième jour. Et donc, ça laisse penser que, du point de vue de son état-major, le suivi, c'est-à-dire que la convention démocrate va sans doute avoir un très gros impact dans les prochains jours en termes de sondage, que ce soit en sondage national ou en sondage sur les swing states, et qu'il faut déjà mettre en place des contre-feux pour tenter les conventions, quand elles se déroulent bien, peuvent impacter en termes de popularité. Après, il faut consolider, mais peuvent un peu impacter en termes de popularité de 3, 4, 5 %. Et donc là, si vous avez à la fois ce phénomène en termes national et sur certains états clés, moi, je ne peux pas comprendre autrement que le fait qu'il y ait cette interview surprise, au fond, qui n'était pas annoncée et qui est déclenchée bon. par un média qui est plutôt MAGA compatible, si j'ose
dire. Bien sûr.
Donc, pour en revenir à
oui, vous disiez quels que soient les candidats à la Maison Blanche.
Oui.
Fed va se placer au-dessus de la mêlée.
Oui. Alors, effectivement, il faut plutôt le faire en période blackout, donc le faire avant. Et après, mais au fond, s'il y avait une dégradation du marché du travail qui se révélait plus ample, je pense que la Fed elle a une marge de manœuvre. Les taux.
Ah oui, on l'a dit, de 200 points de base.
Ouais. Au moins 200 points de base. Ouais. Hein. Donc ça veut dire qu'elle a clairement une marge de manœuvre, d'où le fait qu'il y a des anticipations de 50 points de base.
Ouais.
Je pense que c'est trop pour la Fed aujourd'hui, mais rien ne lui interdirait de séquencer, au fond, de 3 baisses de taux.
Ouais.
Même si c'est pas dans son statut, si j'ose dire, de neutralité politique. Normalement, il y a, au fond, hormis quand il y a le feu à la maison, et effectivement, il y a une neutralité. C'est-à-dire que la Fed n'agit pas au moment d'une élection. Mais les éléments qu'on a sur le marché du travail et la révision, notamment, du BLS de cette semaine, laissent penser que le tableau n'est plus du tout le même. 800 000, hein, c'est presque 1 million, c'est presque un tiers. C'est-à-dire
un tiers
des créations d'emplois sur lesquelles reposait l'analyse de la Fédérale Réserve ont disparu.
Évidemment. Bon,
c'est pas neutre. Hein.
C'est pas neutre. Et l'exposé est un peu plus clair. Merci beaucoup. Et à l'image de Jérôme Powell tout à l'heure à Jackson Hole. Merci Xavier Patrolin chez Albatros Capital d'avoir décrypté cette intervention. On ne peut plus capital pour vous toutes et tous qui nous écoutez, bien évidemment, et notamment sur les marchés. C'est la fin de Good Evening. Merci beaucoup de nous avoir suivis ce soir. On se retrouve la semaine prochaine. Vous retrouverez en l'occurrence Guillaume Paul. Et puis vous nous retrouvez toute l'équipe de BFM Business à partir de lundi midi. Enfin, lundi matin, évidemment, la rentrée de Good Morning Business, la nouvelle équipe de la matinale en direct dès 6h. Et puis à midi, on se retrouve en direct de la REF, la rencontre des entrepreneurs de France, les universités d'été du MEDEF. On vous fait vivre comme tous les ans l'événement sur place. On sera en direct à partir de midi, édition spéciale à partir de 13h. Le discours très attendu, bien sûr, du président du MEDEF, Patrick Martin, diffusé à partir de 14h. On va voir les messages qu'il envoie à la classe politique dans son ensemble. Et puis donc, on vous accompagnera tout du long, lundi, mardi, pour suivre l'événement sur place. Voilà le programme de la rentrée, si vous n'êtes pas déjà rentré. Et puis on se retrouve donc à partir de lundi matin en direct sur Good Evening. Bonne soirée et bon week-end sur BFM.
Good Evening Business, actu, expert, débat et interview des grands acteurs de l'économie.